étudier le contenu au détriment du résultat. Là, ils ont montré justement qu'ils savaient faire l'inverse. Et c'est ce pourquoi ben, je commence à croire de plus en plus aux chances justement de gagner le titre, même si je pense que Liverpool est mieux positionné. D'ailleurs, ils sont en train de gagner face à Sheffield 1-0 de Darwin Núñez. Moi, j'ai bien aimé justement Arteta. Pour moi, il a plus de cordes à son arc avec une variété tactique, avec un banc un peu plus profond. On a vu ses choix qui étaient très discutés en début de saison, qui aujourd'hui, on a l'impression que ben il était décrié, mais en fait ses choix sont bons. Quand on pense au choix de David Raya face à Ramsdale, quand on pense au recrutement de Kai Havertz, on pense à l'intronisation de Kivior au poste de latéral gauche à la place de Zinchenko, etc., etc. Je peux aller très loin dans les choix positifs qu'a fait Mikel Arteta.
T'as le recrutement de Kai Havertz, mais t'as surtout Declan Rice. Positionnement.
Non, mais il y a Declan Rice, bien sûr. Aujourd'hui, on en parlait avec Mathieu. Mais Declan Rice, ça a été le joueur.
C'est juste que j'ai pas le temps de dire ça. C'est le meilleur joueur d'Arsenal.
Qui a monté Arsenal.
L'année dernière, on a eu une émission sur Declan Rice.
Toutes les semaines, je parle de Declan Rice. Mais je mange même plus de couscous, je mange du Rice.
Arrête, Mathieu. L'image d'un Makelele au Real de Madrid qui a remis l'équilibre justement dans cette équipe.
Il y a ça
qui permet justement
mais
de.
Mourad, il n'a pas joué non plus.
Oui, il a fait le travail mécanique.
Mais Mourad, tu parlais du recrutement de Kai Havertz. Moi, au-delà du recrutement de Kai Havertz, c'est chapeau à Arteta pour le positionnement qu'il a réussi à donner à Kai Havertz.
Bien sûr.
Parce que Kai Havertz.
Personne ne savait jouer avant Kai Havertz.
Mais pas gagné, surtout les débuts.
Kai Havertz, personne ne s'attendait à le voir en pointe d'Arsenal alors qu'il y avait un certain Gabriel Jesus. Sauf que j'ai déjà répété ici, Gabriel Jesus, il doit avoir un problème physique, il se pète toutes les 4 semaines. Donc il a réussi à trouver un positionnement à Kai Havertz qui fonctionne à merveille. Et quand tu recrutes un mec comme Declan Rice, et ben ça change beaucoup de choses. Surtout quand Jorginho, par rapport à la fin de saison dernière, il est au-dessus aussi. Je trouve que.
Le positionnement au fur et à mesure de la saison de Declan Rice a changé. Au départ, il a été recruté pour être en sentinelle devant la défense. Et au fur et à mesure de la saison, il se retrouve à remplacer Granit Xhaka, qui n'a jamais été vraiment remplacé. Et donc réintroniser Jorginho à la récupération, où là aussi c'est un choix fort d'Arteta. Donc en fait, c'est là que je parle de. Il y a des choix, mais c'est des choix mouvants, en fait. Et c'est une grosse variété tactique. Ils sont capables de faire le jeu, ils sont capables de laisser le ballon comme ils l'ont fait à l'Etihad Stadium. Et c'est là, justement, où je vois que Mikel Arteta a progressé.
Je suis entièrement d'accord. On a beaucoup parlé d'Arsenal la semaine dernière. Et pour revenir, du coup, sur ce qu'on a, pas dit, donc c'est-à-dire sur ce qui s'est passé ce week-end entre Arsenal et Manchester City. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Mourad. Beaucoup ont vu une purge. Alors, certes, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont moins l'habitude de regarder du football qui étaient présents pour regarder cette grosse affiche, ce gros main event, entre guillemets. C'est un peu l'affiche que tout le monde attendait. Donc, forcément, peut-être qu'il y a un peu
comme
plus de gens.
Au lycée, on aurait dit les essuie-glaces de la 205 GTI de Milan Neyman.
Ah bah oui.
À l'antenne, il a 205
GTI. Voilà. Il y en a une articulation pour regarder secrète, bien évidemment. Mais c'est vrai que, du coup, et ce que je voulais dire là-dessus, une vraie bataille tactique où, en fait, selon moi, plutôt que voir des entraîneurs on parlait de partie d'échec avant la rencontre la dernière fois, et ben selon moi cette partie d'échec avant cette partie, ils se sont dit ok, on va essayer de neutraliser les points forts de l'adversaire et on va pas mettre en avant nos points forts. Sauf que comme les deux ont fait la même chose, on s'est retrouvé dans un match très stérile où chacun, au lieu de se baser très fort sur sa force, on décidait plutôt de neutraliser les forces adverses, ce qui rendait le match très intéressant.
Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était un match à enjeu très important et que le perdant était éliminé à la course au titre. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont
éliminé peut-être pas Adnan, parce que
en tout cas ça aurait été un virage très important, parce que je sais pas, je crois qu'ils se rencontrent plus en confrontation directe dans le championnat. Voilà, on se rappelle l'année dernière justement d'Arsenal qui a pris deux valises justement contre Manchester City. Ils avaient 10 points d'avance, ils se sont retrouvés deuxième. Enfin voilà,
Arteta a compris qu'il pouvait pas jouer au jeu de Manchester City avec les mêmes idées de jeu que Manchester City. Et donc il a proposé quelque chose d'autre. Moi, comment ce match-là qui a été beaucoup décrit, moi je l'ai regardé un peu comme un roman d'Agatha Christie. Donc il faut vraiment avoir l'œil fin, l'attention du détail, etc. Exactement. Et il y a un autre livre aussi que j'aime beaucoup, mais le titre est très controversé. Alors que certains la blockbuster hollywoodien, tu vois ce que je veux dire. Alors ce match-là, pour les spécialistes du football et les aficionados, je pense que c'est une masterclass tactique.
Et je me la mets
dans les veines. Tu vois ce que je veux dire.
Et tu parlais à Nan que l'année dernière ils ont pris deux valises contre Manchester City. Cette année, ils prennent pas de but.
Oui, mais c'est ça.
Ils gagnent 1-0 et ils font 0-0.
Peut-être qu'ils jouent pas le match justement pour le gagner ou pour le perdre, mais juste se neutraliser, avoir un bon match nul et on repart justement la saison.
J'aimerais bien voir la vie de Samy.
Juste termine. la meilleure affaire, elle est pour Arsenal. Parce que faire match nul à Manchester City, même si mathématiquement c'est Liverpool qui reprend l'avantage, puisque là en plus ils mènent 1-0, donc ils reprennent l'avantage. Mais la bonne affaire, elle est pour Arsenal qui ne s'incline pas.
Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée.
C'est
pour ça que
c'est un gros jeu. Aujourd'hui, personne ne peut prévoir qui fera le champion d'Angleterre.
Ouais, Samy, on va l'écouter.
C'est ça qu'on aime.
Alors, non, moi sérieusement, Arsenal, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Contrairement à l'année dernière, cette année ils ont un banc de touche, ils ont un effectif un peu plus large. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que Liverpool ne joue plus rien et que ce soir ils sont en train de gagner. Donc je pense que c'est l'équipe la plus armée. Et Arsenal, j'ai envie de dire malheureusement, mais doit faire un choix. Est-ce qu'on joue à fond la Ligue des Champions? Est-ce qu'on est à fond dans le championnat? Mais ils ne pourront pas être à 100% sur ces deux compétitions.
Je pense que tu peux permettre de jouer les deux,
Samy.
Mais justement, avec la profondeur de banc, tu peux te permettre de jouer les deux.
Les Anglais ont toujours privilégié le championnat avec des champions.
Aussi.
Ça dépend pour qui. Mais Arsenal
privilégiera le championnat. Je pense, au détriment de la Ligue des Champions.
Cette année, elle est tellement prenable que si je me mets à la place d'Arteta, je peux pas.
Obligé d'y aller.
Je peux pas jouer à 70%
sur ce match-là.
Bien sûr.
Donc, je vois quand même Liverpool. Parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, donc ils ont
la Ligue Europa encore.
Et puis le club s'en va à la fin de l'année, peut-être pour fêter quelque chose.
Oui, je pense qu'ils veulent faire sortir Jurgen Klopp par la grande porte.
C'est ça. Pour les joueurs, ils sont investis quand tu les vois jouer à Liverpool. Tu sens l'ADN Liverpool.
Ils sont vraiment en mission.
Je pense qu'ils veulent tout faire pour
partir.
Pour que Gareth Southgate ne soit pas l'entraîneur la saison prochaine. Non, je plaisante. Mais justement, peut-être pour reprendre un peu Samir sur cette partie-là, peut-être qu'ils ne considèrent pas l'Europa League comme étant très chronophage ou comme. Absorbant beaucoup d'énergie, mais ils ont quand même l'Europa League à jouer.
Ouais.
Ils ont un déplacement, je crois qu'ils rencontrent l'Atalanta à Bergame.
C'est ça, l'Atalanta,
qu'ils peuvent y laisser
des choses. Moi, je pense que c'est même plus fatigant de jouer la Ligue Europa, parce qu'en termes de concentration, on n'est pas non plus à 100%, etc. Des fois, ils vont arriver les mains dans les poches face à des équipes
sur l'aspect mental.
Si tu perds contre l'Atalanta à Bergame et que tu rencontres Manchester United le match d'après, par exemple, dans quelles prédispositions mentales t'arrives justement en première ligue?
Mais on parlait de la volonté de jouer les deux compétitions à 100%, 70%, laquelle on privilégie. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a commencé à avoir un semblant de réponse déjà du côté de Manchester City et d'Arsenal, qui ont déjà commencé à faire tourner les effectifs sur certaines rencontres.
Mais ils ont l'effectif.
Ils ont des effectifs à 25 joueurs.
Oui,
mais je suis d'accord avec toi, mais ça te montre justement qu'ils ont pas la volonté de mettre tous leurs œufs dans le même panier et de se dire, OK, nous, on est engagé sur deux compétitions. Notre objectif, c'est de faire la meilleure impression sur les deux compétitions. On a vu un City sans Haaland, sans Kevin De Bruyne. Alors, imaginons si c'était passé de la même chose au Paris Saint-Germain, on osait faire sortir Kylian Mbappé.
Ouais. On en a parlé en plus.
Et c'est ce que je te dis justement. Ouais. C'est que nous, on fait la une partout, alors qu'en Angleterre, c'est très bien, ils ont fait tourner.
Parce que c'est pas les mêmes effectifs.
Phil Foden a fait un match extraordinaire et peut-être avec Rodri, le meilleur joueur de City depuis le début de saison.
En Angleterre, en ce moment, le débat, c'est certains journalistes, notamment Roy Keane, a qualifié Haaland de joueur de Division 4.
On l'avait dit sur l'antenne aussi.
C'est-à-dire qu'en termes de liberté d'expression, on est loin de la dictature de la Ligue 1.
Faut pas oublier qu'il y a une histoire entre les Haaland et les Rangers.
Et après, lorsqu'on fait une analyse en termes de football pur, je pense que sur Footsider, peut-être qu'il y aurait des recruteurs qui l'auraient repéré à Londres, mais pour son efficacité, etc. Mais en termes de qualité pure,
mais c'est aussi.
Footsider avait été sponsorisé par Steve Savidan, j'aurais dit oui, peut-être. Mais là, c'est Ronaldinho et Yacine Brahimi derrière.
Je te rappelle juste une anecdote.
C'est pas le même profil.
Il y a un certain Trezeguet, justement, qui a passé les détections, justement, au PSG, qu'on n'a pas pris parce qu'on l'a trouvé trop lent. Et derrière, il a signé à Monaco et il a planté but sur but. Parce qu'il rentrait pas dans ces critères-là.
C'est de le rappeler. C'est vrai, même avec Griezmann, avec Lyon. Mais après, ce que je voulais démontrer, du coup, par ça, et je pensais pas ouvrir un débat à ce niveau-là, mais c'est simplement dire que, en fait, quand un coach a la main sur son effectif, ça se ressent, et t'es pas obligé de critiquer un coach qui fait des choix tactiques, fait des choix techniques. On en revient à ce qu'on disait mardi, et je trouve ça très bien que Pep Guardiola fasse ces choix là et mette tous ses joueurs en confiance avant les échéances qu'il va y avoir. pareil du côté d'Arteta avec avec le comment le repos de Declan Rice.
Et
ça montre aussi que les voilà exactement et ça montre du comment du coup le fait que tu comptes sur tous tes joueurs, que si jamais t'as un pépin physique, que t'as un suspendu, que tout le monde est concerné sur le terrain. Et pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose.
Bah,
et
il faut arrêter de jouer sur tous les tableaux avec un seul 11 de départ. Et on l'a vu hier. Et justement, c'est pour appuyer ce que tu dis. On l'a vu hier, l'homme du match face à Luton, c'était Emile Smith Rowe. Mmh. Voilà, donc c'est un joueur qui était dans la rotation, limite qui avait, qui était limite prédestiné à une fin de carrière à la Wilshire, une fin de carrière prématurée à cause des blessures, etc. Et hier, il finit homme du match. Donc ça, c'est des, ça, ça va être que positif.
Voilà, tous les signaux sont ouverts.
Samir, on l'écoute. On va terminer avec toi.
Je reprends le football anglais. Là où c'est très intéressant, ce que tu dis, c'est que tous les joueurs sont concernés.
Ouais,
on a vu
Benji qui le disait
hier sur le match face à Luton. Pour être champion, ça doit, c'est pas 14 joueurs, c'est 20 joueurs, c'est tout un staff, un effectif. Donc je pense que là où Arsenal est intéressant cette année, l'année dernière, il se serait pas permis de changer autant de joueurs, même si c'est Luton et que certains ne respectent pas beaucoup. Ça reste un match de première ligue et autant de turnover, falaisé.
Mais après, Samy, moi je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu trouves pas que Arsenal a aussi acquis beaucoup plus de caractère que les années précédentes, au-delà des joueurs, au-delà de l'effectif,
bien sûr,
mais en termes de caractère sur le terrain, de ce qui dégage, de regarder justement toutes les équipes les yeux dans les yeux. Et
là, c'est la première fois, je pense qu'on peut dire ça, mais c'est un coach qui va gagner. C'est Arteta vs Guardiola vs Klopp. C'est vraiment l'ADN que le coach va mettre dans son équipe pour déterminer qui va être champion.
Pas savoir.
Et juste rapidement,
on n'a plus trop le temps. Hein.
On a juste Chelsea qui mène 2-0 contre Manchester United après 25 minutes de jeu déjà.
Voilà, ça c'est du rappel avec Mathieu Solal.
Rapide, capable du meilleur comme du pire.
Arsenal Chelsea. Avant la NBA.
Ouais, bien sûr, Arsenal, et on parlait de Erling Haaland que je trouve très intéressant sur différents plans. Moi, pour moi, il y a vraiment un changement dans sa carrière, indépendamment de ses qualités d'attaquant qui sont indéniables, c'est la rencontre avec Mbappé. J'ai m'expliquer, c'est vrai que des rivalités comme ça, même si on joue pas dans le même championnat, avoir une vision sur un joueur qui au même poste peut exceller, ça pousse les deux à devenir meilleurs, et je pense qu'Mbappé a pris un peu le meilleur de ça. C'est une petite tristesse parce que Haaland aurait pu avoir un sursaut d'orgueil et faire une saison incroyable après voir ce que fait Mbappé, mais faut
elle
pas
est
oublier
pas
finie,
non plus la saison,
évidemment.
Elle est pas finie, c'est le meilleur buteur de première ligue,
voilà,
ouais,
faut pas négliger.
Voilà, exactement,
on est encore loin des standards de la rivalité Ronaldo.
J'allais justement venir, c'est peut-être pas la saison qui fait la saison dernière en tout cas, mais il joue dans le meilleur championnat. Je pense qu'en Ligue 1, Erling Haaland serait été les Playmobil face au Lego ou d'autres échelles de grandeur si vous préférez.
Ça dépend de qui joue autour aussi.
Merci.
Anan, oui.
Ouais, juste Benji. Un dernier mot. En plus, on a la chance d'avoir quelqu'un
de ce soir.
Beaucoup dans le scouting, etc. Ouais. On parlait justement de Haaland qui n'aurait pas été spécialement scouté par certains clubs.
Alors, l'équipe de France, si. Parce qu'ils aiment les grands costauds.
Bien sûr, mais dans certains plans. Mais en fait, selon moi, tu vois, t'as aussi ce truc là où je pense que quand t'es scout à certains postes, tu veux juste quelqu'un qui excelle dans un domaine et dans un poste précis. Haaland, c'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de faire jouer sur un côté, de faire jouer en numéro 10 ou de faire jouer en 6 comme certains joueurs qui ont cette capacité. Alors, à pouvoir jouer partout et qui sont des grands joueurs également.
Ouais, on a plus trop le temps.
Cependant,
on a plus trop le temps pour la question à Samy.
Excelle uniquement à un poste mais qui est le meilleur à son poste, c'est pas plus intéressant qu'un mec qui est très complet et qui est un peu moyen partout entre guillemets.
Merci Benji. Ouais, on a plus le temps. Désolé, on va donner les infos après avec Samy qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on doit parler des matchs de ce soir de la NBA. S'appelait à Mourad justement, qui nous écoute. Non, pas Mourad dans le studio, Mourad du côté de d'Aix-en-Provence.
Moi, je suis pas très NBA, je suis contre la basketballisation du football.
Donc,
ça peut pas être moi.
C'est pas Mourad. Eh oui, des matchs ce soir, c'est ça. Les Cavaliers, entre autres, les Nuggets ou encore même les Suns, c'est ça, Mathieu.
Alors, les Cavs contre les Suns, c'était hier soir.
C'était hier, excuse-moi.
C'était hier soir.
Les Warriors,
et aujourd'hui. Il y a eu carton des deux stars des Suns, Devin Booker et Kevin Durant. Mais ce soir, oui, il y a les Nuggets, les champions en titre, qui se déplacent à Los Angeles contre les Clippers. Et on a, oui, les Warriors contre les Rockets, les Kings de Sacramento qui se rendent à New York au Madison Square Garden. Et les Sixers à Miami.
Moi, le Sixers Miami, j'avoue que c'est le match qui m'emballe le plus, dans le sens où, dans le classement à la conférence Est, où c'est encore très serré, peut-être moins que la conférence Ouest, où de la 4e à la 12e place, tu peux encore espérer gagner énormément de place. Et vraiment, le 12e peut encore espérer être 4e quasiment du côté de la conférence Ouest. Côté de la conférence Est, il n'y a qu'une victoire qui sépare Miami et Philadelphie. Donc c'est un match très important dans cette course à aller chercher un top 5, un top 4 peut-être, pour essayer d'avoir l'avantage du terrain en play-off et peut-être commencer à marquer des points. Et puis en plus, c'est une C'est une rencontre iconique, une affiche iconique de la NBA à l'Est, qui a connu beaucoup de stars, qui a toujours des stars actuellement. Et puis on a envie de revoir Joel Embiid jouer au basket.
Oui, là aussi, tant de choses à suivre. Ouais.
Oui, c'est un réel plaisir parce qu'il a fait son absence pour blessure, a fait beaucoup de mal aux Sixers, qui étaient troisième juste derrière Boston et Milwaukee avant sa blessure. Et là, ils sont descendus huitième. Ils ont enchaîné énormément de défaites avec sa blessure. Et déjà, et Miami est sixième. Et c'est la dernière place pour les playoffs directement. Mais c'est vrai que déjà, le retour de Joel Embiid sur le dernier match a marqué le match, puisqu'il a fait un très bon match pour son retour. Et les Sixers se sont imposés. Donc, très intéressant ce match de Miami contre Philadelphie. Et j'ai très hâte de voir aussi le Kings-Knicks au Madison Square Garden, parce que les Knicks, ils sont sur trois défaites de suite. Et Orlando, qui est sur trois victoires de suite, est passé devant les Knicks. Et Orlando est quatrième et a l'avantage du terrain. Donc, c'est une bonne surprise.
Et à ne pas sous-côté le Houston Rockets Warriors, puisque au classement, personne n'attendait les Rockets être capables de pouvoir essayer d'aller gratter une place en play-in, qui est le tournoi qualificatif pour accéder aux playoffs. Et au final, ils sont juste derrière les Warriors. Et pareil, il y a un ou deux matchs d'écart entre les deux équipes.
C'est
très important pour la post-season.
Ces infos concernant le championnat nord-américain, qui est le basketball, la NBA. C'est promis avec Vivian, entre autres, à qui nous passons le bonsoir, Mathieu, et sans oublier aussi Benji, Anan, rapidement, avec Footsider et Samy qui nous accompagnent. La question, la réaction peut-être.
Non, c'était par rapport à des critères justement que certains clubs avaient. Est-ce que il y a des clubs qui demandent justement des joueurs rapides, etc., etc.
Et donc, t'entends pas.
Oui.
Voilà.
Non, mais voilà, c'est juste par rapport aux critères. Il y a des clubs qui ont des critères bien précis sur un type d'attaquant, et je peux vous assurer que Haaland ne rentre pas dedans.
Oui. Samy.
Si je parle moi et j'utilise mon expérience à moi, Haaland sera un joueur forcément que je vais sélectionner. Pourquoi ? Parce que si je le prends le 19 avril, je sais qu'il va venir à 150%, qu'il va être prêt. Et dans son regard, on voit une détermination qu'on ne voit pas chez beaucoup de joueurs. On oublie son âge parfois. Donc oui, mais bien sûr, ce que tu dis, c'est réel. Pourquoi on essaie d'élargir à autant de clubs l'événement du 19 avril ? C'est pas pour faire joli, c'est que chaque club vient avec un critère précis. Et des fois, si tu veux une anecdote, on peut me demander un 2005 qui est né après juin.
Ouais,
donc c'est vraiment des détails vraiment précis où il faut qu'il soit né après le 31 juin jusqu'au 31 décembre. Pourquoi ? C'est une chose que moi-même je ne sais pas, mais bien sûr qu'il y a des critères.
Et en tant que fan de football,
merci,
de nature, les petits jeunes, ça
Samy. Ouais, merci Samy de Footsider. On le rappelle, le grand événement Scouting Day le 19 avril à Paris. Voilà, toutes les infos sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux et l'application, n'hésitez pas à la télécharger.
Voilà. Un grand merci à Samy et à toute son équipe de Footsider qui nous ont accompagnés aussi ce soir dans ce studio. On a la personne de Margot avec Benji, sans oublier Mourad, et oui, le So British, et Adnan aussi, un plaisir d'avoir entrevu Adnan dans cette émission, sans oublier aussi Mathieu à la réalisation, c'est Solal. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. On avait pas mal de dédicaces, mais on n'aura pas trop le temps de toutes les lire sur l'antenne. En tout cas, oui, il n'y a pas de place de parking. Voilà, c'est pour Benji, on m'annonce il comprendra. Allez, à demain, et nous, on se dit, restez justement bien vigilants à tout ce qui se passe, notamment sur les résultats sportifs, et notamment avec le championnat nord-américain qui est la NBA.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la rediff.
Parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 22h. Et qui dit 22h dit confidence. C'est l'heure de confidence. Sahaf Turkoum, j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous. Nous en sommes à la mi-mi-mi. Ça y est, c'est la moitié. Il nous reste plus qu'une. Ça a été vite, hein. Vous voyez, ça a été rapide, hein. C'est pas si difficile que ça. On va pas se plaindre non plus. Bon, écoutez, j'espère, oui, que ce ramadan se déroule bien pour vous cette année. Les personnes qui n'ont pas pu jeûner pour cause de santé, eh bien, on est de tout cœur avec elles. Voilà. Et puis, on est là aussi pour tous les soirs, pour faire comme une petite veillée, hein, voilà, Sahara, comme on dit, d'accord ? Parler de tout, voilà, passer le temps, dire des choses qui sont importantes parfois, se soutenir les uns les autres, et puis surtout aussi se réconforter, ça fait du bien, cette solidarité, savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est écouté, qu'on est aimé. Bah, écoutez, on vous aime, et on est là, et votre souffrance, on est là, et on la porte avec vous. Donc venez vous confier, venez vider votre cœur. Ok ? Allez, on vous attend au 01 53 48 3000. Et c'est Solal qui vous répondra et qui réalise également cette émission. Allez, on se dépêche, on appelle 01 53 48 3000. Nous sommes lundi 25 mars, comme le temps passe. Dépêchez-vous d'appeler parce qu'après je vais être en vacances. Hein, moi, je vous préviens, tant pis pour vous. Vous savez pourquoi je pars? Parce que vous m'énervez. Ah ouais, en début d'émission, bon ben voilà, vous arrivez tout doucement. Mais non, il faut être là, il faut être présent, d'accord? Donc à partir de vendredi, je serai en vacances. Voilà, je vais chercher un petit peu de soleil. J'en ai besoin, comme beaucoup hein, d'ailleurs, hein, mais bon, chacun pense pour soi, hein. Et Dieu pour tous, je vous avoue. Je penserai à vous. J'aime bien les gens qui disent « je penserai à toi ». Tu penses à moi, ok, mais c'est toi qui profites du soleil, c'est toi qui... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais chacun son tour en même temps. Bon, on y va, 01 53 48 3000, allez, allez, dépêchez-vous d'appeler. Qu'est-ce qui leur arrive là? Bonsoir Solal.
Bah écoute, je sais pas, je crois qu'ils sont encore en train de dormir, je vais y arriver, mais écoute...
Ça c'est le ramadan parce qu'ils ont mangé les gens, donc après ils somnolent. Mais non, c'est Sahara, c'est maintenant.
Je sais pas comment vous faites avec cette énergie débordante qu'a Vanessa tous les soirs pour pas appeler ou réappeler, franchement. En tout cas, c'est tous les soirs de 22h à minuit, confidence, 01 53 48 3000. Le numéro à appeler si vous voulez passer à l'antenne, chers amis, hein. Il change pas, 01 53 48 3000. Nous on est très heureux tous les soirs de vous avoir avec Vanessa au standard, ça donne des moments de radio inoubliables. Donc si vous voulez passer du mode écoute au mode papote, et eh ben écoutez, faites comme le numéro qui vient d'appeler au standard. Je vous laisse les amis.
Et qui se termine par 78. Il se passe reconnaître. Vous savez qui c'est que j'ai eu aujourd'hui? Oh, c'était chouette. C'était chouette parce que ça ravive des souvenirs, des émotions. Eh bien, dans les petites annonces, juste il est passé pour dire un petit coucou. Bon. Il y en a beaucoup qui l'ont connu, les générations 30 et moins, peut-être pas. Voilà. Alors, vous qui, enfin, surtout les d'origine algérienne, hein, qui partiez en vacances en Algérie. Vous avez tous connu Hedidouane, bien sûr, l'humoristique, là, le comique, plutôt, hein, voilà, et le clown. Bah oui, il était en clown, hein, déguisé en clown, Hedidouane, avec une voix comme ça, c'était marrant. Et donc on aimait bien quand on partait en vacances, quand on était jeune. Eh ben, il est plus de ce monde, hein, les Ahmou. J'ai eu son frère, Hedidouane, donc il vit en France, hein, son frère. Et il m'a dit que c'était son frère, etc. Il voulait faire un petit coucou, il a appelé ce matin. Et j'étais contente, ça m'a fait plaisir, puisque ça ravive des souvenirs. Alors je lui ai demandé d'appeler, alors j'espère qu'il appellera dans confidence, pour nous raconter quelques petites anecdotes de Hedidouane, par exemple. Hein, c'est vrai ou pas? Bon, allez, 01 53 48 3000. Avant de vous donner la parole, alors tout de suite, hein, avant de vous donner la parole, c'est les petites pensées du soir. C'est normal, c'est très très important, c'est une institution. Une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, l'Hijbikoum, Shfanchallah. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous, une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Oui, parce que après, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je sais plus du coup. Alors, moi, je vous ai concocté, enfin, vous allez voir. C'est une proposition. C'est une proposition qui m'a été, comment dire, pas proposée, hein, c'est ma propre initiative, mais en parlant aujourd'hui, durant l'émission Les Petites Annonces, 13h-14h, eh bien, j'ai rencontré, comme régulièrement, notre ami, surtout durant la période du mois de Ramadan, Manu, qui anime l'émission Le Ftour. Alors, Le Ftour, votre Ftour, je crois, parce que ça a changé de nom. Hein. Alors, je vais vous le dire tout de suite pour pas dire des bêtises, je vais pas écorcher les noms, moi. Hein. Mais bon, alors donc, c'est, je sais qu'il y a Ftour dedans. Alors, donc, notre ami, oui, c'est Ftour du Monde. Oh, c'est un joli nom en plus, Le Ftour du Monde. Alors, Manu Mariani, qui anime tous les jours Le Ftour du Monde. Moi, j'adore ses émissions et j'écoute. Voilà. Juste après, j'écoute Philippe Robichon, bien sûr, mon collègue, et Abdel Mamoun. Et juste avant, ben, c'est Manu. On s'écoute, nous tous. Hein, lui aussi, il écoute. Hein. Donc, Manuel Mariani. Manuel, si tu as l'écoute, je te fais de gros bisous. Hein. Eh bien, Manuel, c'est un passionné, attention. Hein. Comme beaucoup ici à BFM. C'est un passionné de ce qu'il fait, vraiment. C'est, vous voyez, travailler, c'est incroyable. Hein. Il fait de la recherche, etc. Puis il a un bon relationnel, un bon contact avec les gens, formidable. Et donc, si vous voulez, il était en train de... voilà, on a parlé, on a discuté, on a parlé, il a enregistré les choses, tout ça, hein, pour préparer son émission. Puis à un moment donné, il m'a parlé d'une invitée qu'il a eue, et cette invitée, il m'a fait écouter un passage, voilà, de son émission. Et j'ai trouvé ça, eh bien, pertinent, et tellement frappant de vérité. D'ailleurs, j'inviterai son... son invité qui sera la mienne après, du coup, hein, ce sera mon invité à moi. Et elle s'appelle, alors pour pas écorcher son nom, je sais qu'elle s'appelle, j'essaie de trouver le nom. Manu. Alors, c'est Imane, je crois que c'est Imane. Si je me trompe pas, Imane. En tout cas, je pense que c'est Imane, hein, vraiment. Alors, Imane, oui, c'est ça. Alors moi, j'ai écouté son passage. J'ai trouvé pertinent, très intelligent. C'est une journaliste et qui fait beaucoup de choses aussi à côté. Et j'ai trouvé très pertinent et tellement frappant de vérité et que enfin, on a les mêmes idées apparemment, puisque j'avais déjà évoqué, j'avais fait une vidéo il y a début du mois de Ramadan, je crois. J'avais fait une vidéo qui abondait dans le même sens. Et quand j'ai écouté Imane, je me suis un petit peu retrouvée dans ses idées, voyez-vous, dans son coup de gueule. Et donc j'ai piqué, il me l'a envoyé, hein, le passage que je vous ferai écouter tout à l'heure, hein, on vous le fera écouter. Et je me suis, si vous voulez, appuyée sur son thème à elle, et sur son coup de gueule, j'ai envie de dire aussi, hein, et pour en faire aujourd'hui un sujet que je vais m'empresser de vous proposer, d'accord ? 01 53 48 3000. Alors, avant de le prendre, le sujet, parce qu'il y a des personnes qui appellent là, et ces personnes peut-être voudraient parler d'autre chose. Alors, si je lis mon sujet, elles vont se sentir hors sujet. Elles vont dire, je un peu gênée. Donc, pour ne pas les gêner, je vais prendre d'abord nos auditeurs, parce que la priorité est aux auditeurs. Ensuite, je vous dirai le sujet. D'accord ? Si vous voulez bien l'aborder, bien sûr. Bonsoir, Karima de Creil.
Bonsoir Vanessa.
Bienvenue Karima, comment vas-tu?
Ça va, depuis vendredi, ça va?
Ben écoute, oui, ah oui, tu avais appelé vendredi, c'est ça?
Oui, oui.
Ça y est, oui, c'est vrai. Toi, tu avais parlé de quoi vendredi déjà, pour que je te resitue?
On avait parlé de l'handicap et puis...
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
J'avais mon auto-entreprise.
Ah oui, c'est vrai.
Pour faire la sensibilisation à l'handicap visuel.
Absolument. Alors ce soir, j'ai un sujet. Je ne sais pas si tu vas vouloir en parler.
Non, parce que moi, j'avais proposé un sujet et tu m'as dit d'appeler justement aujourd'hui.
Alors vas-y, c'est quoi? On peut en proposer plein des sujets. Oui.
Sur les mariages consanguins.
Consanguins. Ah oui, parce que toi, justement, tu es touché par ce fléau, parce que c'est un fléau, hein. Ah oui.
Ah, mais c'est n'importe quoi, surtout.
Ah oui, oui.
Aujourd'hui. Hein,
c'est un sujet qui a longtemps été tabou et qu'il faut absolument briser parce que ça fait beaucoup de dégâts.
Bah oui.
Alors, par exemple, toi, ton histoire, ton cas.
Bah, mes parents sont cousins germains.
Oui.
Et en plus, mes grands-parents paternels sont cousins aussi.
Ah.
Et puis, bah, ça a créé quand même trois handicapés. Non-voyant avec l'ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire les euphrasies.
Oui.
Donc, voilà, moi je trouve quand même que, bon, avant, nos parents ne savaient pas.
C'est vrai.
C'était comme ça, c'était les mariages arrangés, c'était comme ça et pas autrement.
Oui.
Mais aujourd'hui, je comprends pas.
Mmh. Que ça perdure encore.
Que ça perdure même dans ma famille. Hein.
Ah oui,
ils ont
ça continue.
Ils ont pas compris la leçon. Ah oui, ils n'ont pas compris la leçon. Hein. Ah, mais je t'assure. Hein.
Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont de fausses croyances. Bon, ouais. Tu sais, Walèche, moi je les entends, les gens. Hein. Moi aussi j'entends, hein, quand on part au pays, il y a des mariages consanguins. Et quand tu mets ton petit grain de sel et tout, les gens te disent que j'ai fait d'Arbé. Non, Arbé t'as que mort. Sinon, Arbé te donne pas mort si c'est fille d'eau. Si le bon Dieu t'a donné un cerveau avec 500 milliards ou des milliards de neurones, je sais pas combien, eh bien, c'est pour que tu réfléchisses. Oh, c'est vrai ou pas? Donc, on dit toujours, quand le chef est d'Arbé, pourquoi vous êtes des pantins et le bon Dieu, il est en train de vous diriger avec des fils? Non, il vous a donné un cerveau. Il vous a dit, l'alm, c'est quoi l'alm? L'alm, pardon. La science, la connaissance. Et il dit, Iqra. La première parole dans le Coran, c'est Iqra, c'est-à-dire lis. Il y a des gens, ils lisent, mais à l'envers, ce qui les arrange. T'as raison, hein, Karima.
Non, mais en plus, c'est même pas que l'handicap, hein, parce qu'après, quand il y a un problème, c'est toute la famille qui est déchirée, et il y a plein de problèmes avec
ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais surtout l'handicap, parce qu'on n'a pas le droit de mettre au monde des victimes, parce que c'est on le sait d'avance aujourd'hui. Donc
bah oui,
pourquoi
on le sait d'avance
pourquoi
aujourd'hui, bien sûr.
Ouais, Alèche, pourquoi franchement.
Je sais pas. Et quand tu parles, c'est comme si t'as prédit un enfant handicapé, ça m'est arrivé, hein.
C'est comme
de
si.
De parler, on m'a dit oui, tu prédis un enfant handicapé.
Tu quoi?
Tu prédis un enfant handicapé.
Tu prédis?
Comme si, ouais,
non, mais c'est incroyable.
Si tu souhaites un enfant handicapé, quoi.
Alors, le mariage consanguin. Alors, quand il est contracté entre deux personnes biologiquement apparentées, comme cousins, voilà, au deuxième degré, comme toi, là. Avec un coefficient de consanguinité. Alors, c'est ça, le mariage consanguin. Alors, ça peut être très dangereux, les mariages consanguins. C'est dangereux pour qui? Il y a danger pour les enfants à venir. Parce que quand un enfant vient au monde et que les parents sont pas cousins et que c'est comme ça, ça peut arriver génétiquement, etc. Un enfant, il a un handicap, on n'y peut rien. Voilà, donc c'est comme ça. Mais par contre, quand on le sait d'avance...
Oui, bien sûr.
C'est, franchement... C'est de la bêtise, voilà.
Et le problème, quand tu parles, t'es pas bien, hein. Ah non, mais là, tu dis n'importe quoi. C'est pas parce que ça vous est arrivé que ça va arriver à tout le monde.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Etc.
C'est incroyable. Alors, tu sais qu'en France, c'est interdit, hein. Tu sais que c'est interdit en France, hein. En France, c'est interdit, hein.
Mais ils le font quand même, hein.
Quand il y a un degré de parenté qui est assez étroit, c'est interdit.
Si, mais ils le font.
Non, mais les Français. Mmh. Mais par contre, tu comprends, ils peuvent pas. Les personnes qui viennent vivre en France, les personnes issues de l'immigration, ici en France, on peut pas aller faire de la recherche, savoir s'ils ont des cousins en Algérie, s'ils sont mariés avec un cousin en Algérie, ou la Hadja, ou au Maroc, en Tunisie, ou je ne sais où. Mais ici en France, c'est. Voilà. Les Français,
quand c'est le même nom, ils savent quand même. Hein.
Voilà, c'est ça.
Quand c'est le même nom, ils savent quand même.
Mais voilà, mais chez nous, c'est vrai que les gens, pour certains, mais Zelhom encore dans non, cette forme d'ignorance, c'est incroyable.
Bah, j'ai ma nièce qui travaille à l'hôpital Necker au service réanimation pour les enfants, de 0 à 6 ans. Elle m'a dit il y a plein d'enfants qui ont des maladies dues à la consanguinité.
Tu te rends compte?
Et elle m'a dit qu'il y a un professeur qui a dit que Necker ne serait pas Necker s'il n'y avait pas les mariages consanguins.
Tu te rends compte? C'est terrible. Voilà. Hein. C'est terrible. Et arrêtez de vous marier avec vos cousins, bon sang. Rassorgel ou Rassonsin?
J'étais dernièrement à l'hôpital de Creil.
Oui.
Aux urgences, j'avais une sciatique.
Oui.
Du coup, je discutais avec le médecin.
Oui.
Pour une fois aux urgences, je trouve quelqu'un qui discute, parce que généralement c'est très rapide. Hein.
Oui, oui. Bah, et là, du coup.
Discuté. Et elle m'a demandé pourquoi j'avais mon handicap, je lui ai expliqué et tout. Puis elle m'a dit, depuis que je travaille à Creil, elle m'a dit c'est incroyable le nombre de maladies qu'il y a dues à la consanguinité.
C'est incroyable que les gens ils n'arrivent pas encore à admettre et à comprendre. C'est facile pourtant de comprendre.
Ah, non, mais
le sang, il a besoin d'être revu. Tu sais qu'il y a des pays, où, tout à l'heure, je parlerai justement de ces pays qui ont des pratiques très particulières, justement, pour carrément renouveler le sang. Comme par exemple, je crois, chez les Inuits, à une certaine époque. Voilà. Je te reprends juste après Karima. On a Rachid aussi de Montreuil. Les autres, vous pouvez venir, il y a de la place. On va marquer une courte pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Au 01 53 48 3000, chers amis. Et oui, Karima parle des mariages consanguins et les dangers des mariages consanguins, et c'est connu. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, c'est pas possible. Il y a eu des études qui ont été faites. Tu vois, par exemple, je regarde, il y a une étude qui a été faite en 2013. Bon, je peux aussi en trouver plus récente, mais bon, j'ai pris celle-ci. Donc, qui a été menée au sein d'une communauté pakistanaise en Angleterre. Donc, où les mariages consanguins sont fréquents, dit cet article. Il en ressort que le risque d'anomalie congénitale est multiplié par deux lorsque les parents sont cousins. Selon une autre étude américaine, le risque d'avoir un enfant atteint d'un handicap mental ou physique est majoré de 50% pour les couples de cousins germains ou issus de germains. C'est-à-dire que par exemple, toi, tes parents et tes cousins germains.
Oui.
Alors, même si toi, tu ne t'étais pas marié avec un cousin germain, si tu te maries avec quelqu'un de complet, allez, étranger à vous ou étranger carrément d'un autre pays, etc. Mais il y a un gène. Il y a un gène déjà qui est en place. Donc ce qui fait que il peut être transmis. C'est-à-dire que même si tu te maries avec quelqu'un d'étranger à la famille, eh bien ce gène se peut se réveiller, il est transmis. Tu comprends, il se réveille. Mais transmis oui, par les parents, oui. Il peut sauter. Donc c'est cas, pour ça qu'il faut arrêter. Oui, pardon.
Dans mon cas non. Avant d'avoir mon fils, j'ai été voir la
généticienne. Tu as fait, ah voilà, très bien, ah, tu as fait des tests.
Je ne voulais pas.
C'est bien, c'est bien que tu aies fait des tests.
C'est clair et net. Que ça aurait été non.
Voilà, mais c'est pour ça que les mariages consanguins, oui, la preuve, toi, dans ta famille, donc trois qui ont été touchés.
Oui.
Trois dans la fratrie. Trois sur six.
C'est une moyenne. Mais je connais des familles ou c'est... Je connais une famille, j'ai une amie, c'est tout ça.
Toute la famille, ouais.
Toute la famille.
Oh ouais. Non, mais on connaît des familles, oui, au pays où ça se marie, surtout dans les petites villes, les petits villages. Et
il y a des. Maman Alger,
oui.
Même pas dans les grandes
villes. Oui, Alger, mais dans les petites villes, ils se marient beaucoup plus. Il y a beaucoup de mariages consanguins. Moi, je sais, dans ma ville natale, fut un temps, hein, parce que la famille raconte et tout, il y a des familles qui refusaient déjà à l'époque, hein. Mais tu as des familles qui se mariaient qu'entre cousins. Et effectivement, il y a une famille qu'on connaît et toute la fratrie est touchée. Toute la fratrie, que ce soit physique ou d'ordre mental, eh bien, toute la fratrie porte un handicap. Et c'est une famille qui se marie qu'entre cousins. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ben oui.
Ben, bien sûr.
Ouais, la science, je veux dire, elle nous explique les choses, elle fait de la recherche, c'est pas pour rien, hein, c'est pas. Vous savez, les gens.
Mentalement, à chaque fois qu'il ouvre mon dossier, à l'équerre, il ouvre mon dossier, il disait, la bêtise humaine.
Oui, parce que les gens, tu sais ce qui se passe. C'est que les gens, il y a la photo, ils connaissent la médecine que quand ils sont malades. Ah, ils ont un bobo, ils vont voir le médecin. Par contre, quand le médecin, il dit, ah ouais, mais vous savez, les mariages consanguins, c'est. Ah là, il l'écoute pas. Il écoute quand ça les arrange. C'est comme ça les arrange.
J'ai ma nièce à l'équerre, elle me dit quand on leur dit oui, mais bon, ça suffit là. C'est bon quoi, vous avez un enfant, vous avez vu dans quel état il est. C'est Dieu qui donne.
C'est Dieu. C'est toi, t'es parti coucher avec ta cousine. C'est quoi l'histoire à dire? C'est Dieu, il n'a rien fait, Dieu. Tout est Dieu. Subhanallah. C'est-à-dire que, tu sais, on se décharge sur la religion, sur Dieu quand ça nous arrange. C'est-à-dire que même si on fait des erreurs, on commet des erreurs, on dit, ah, la relève, c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est toi qui as fait l'erreur. Je suis désolée. Il faut ça. Dieu, il est pour rien. Il t'a mis au monde, il t'a donné un cerveau. Mais tu sais pas t'en servir, la ralbalik, hein. C'est ça le problème.
Bah, oui.
Ah, comme tu disais si bien tout à l'heure, Kalima, fut un temps où les gens savaient pas du temps des grands-parents, etc., au pays, qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent, Moussakan? Ils savaient pas la consanguinité, ils pensaient que c'était normal. Donc ils se mariaient, Moussakan, mais ils étaient dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, on sait. Tu peux pas faire les choses quand tu sais. Quand tu sais pas, l'arabe. Mais quand tu sais, tu es responsable. C'est toi les responsables.
Elle a juré qu'elle ne dirait pas félicitations à deux personnes qui se marient de la même famille.
Ben oui, parce qu'elle a compris, ta mère.
Elle est arrivée dans la famille, elle l'a pas dit, elle n'est pas contente, mais elle l'a pas dit.
Ah ben, elle avait compris. Karima, tu pars pas, ma chérie, tu pars pas. Parce que j'ai un sujet, peut-être que je pense que tu auras envie de l'aborder. On va prendre Rachid avec nous, et puis peut-être d'autres voudront aussi parler de la consanguinité, qui est un sujet très important, et dont c'est un tabou à briser. Rachid de Montreuil, bonsoir.
Bonsoir, Vanessa.
Bienvenue, Rachid, comment vas-tu?
Et toi? Je te tutoie.
Ah ben, moi aussi. Pardi.
Voilà, moi, bien sûr. C'est la première fois que j'appelle.
Eh ben, écoute, Mahbabek, bienvenue.
Et ça fait des années que je t'écoute.
Ah, ben, ça me fait plaisir, t'es un fidèle.
Oh là, ça fait des années.
Ah, ben, écoute, ça me fait plaisir, vraiment.
Ah, vraiment, je vous souhaite que du bonheur à toute l'équipe.
Merci beaucoup, Rachid, merci. Merci infiniment. Alors.
Parce qu'à chaque fois, je suis quelqu'un de timide.
Ah ouais, t'as pas l'air, hein.
Déjà, même le téléphone, j'ai le trac, tu comprends ce que je veux dire.
Mais non.
J'ai eu le courage aujourd'hui,
Rachid, on est en famille, on va pas être timide, en famille,
ouais,
Bada.
Ouais. Hein? C'est ce qui me plaît.
Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Rachid, tu voudrais parler de quelque chose de particulier ou est-ce que tu veux participer au débat?
Non, déjà, j'ai fait le premier pas, je t'ai appelé peut-être, ça va me donner des forces et des courage, on va se rappeler.
Ah, t'es un amour. Merci, Rachid. Elle a fait un premier pas. Rachid.
Continuez, Vanita, continuez. Ce que vous faites, vraiment, c'est impeccable.
C'est très gentil. Et puis surtout, reviens.
Tu nous fais voyager.
Il est adorable. Rachid, promets-moi de revenir.
Je te promets, je vais revenir.
Ah ben, je t'embrasse fort. Excellente soirée.
Merci, Rachid. Merci, Vanita.
Merci. Il est adorable, Rachid. Sympa comme tout. Ah, j'adore. Karima, tu ne pars pas. Je vais lire mon sujet de ce soir. Et les autres, réveillez-vous. Franchement, faites-moi l'honneur de remplir ce standard. Ramadan, ça y est, vous avez rempli l'estomac. Akum Kslin, et vous êtes en train de digérer. Bon, nous, on est venus. Hein, moi, je suis là. Hein. Alors, donc, ce sujet est sérieux, ma foi. Hein. Sérieux, en même temps, parfois, il prête à sourire. Vous allez comprendre. Et donc, comme je vous l'ai dit, il m'a été inspiré, je dirais, par Iman, qui est passé dans l'émission de mon collègue cette semaine, hein, mon collègue Manu, hein, Manuel Mariani. Et j'ai trouvé très pertinent son passage. Et ça change un peu parce que, bon, c'est redondant, des fois, vous savez, il y a des gens... C'est pas pour dire, on a de super invités, mais bon, des fois, c'est toujours les mêmes choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, et puis, voilà, la danse, ça c'est bien, ça c'est fait. Comment je pratique, comment je pratique pas, est-ce que je me brosse les dents, est-ce que je me. est-ce que je dois me. Je sais pas, moi. Je sais plus quoi dire, parce que franchement, il y a des questions, des fois, vous me dites. Et le bon sens, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je dis ça, je dis rien. Non, c'est vrai, quoi, enfin. Parce que j'avale ma salive, c'est arrivé, voilà. Vous rigolez. Mais c'est arrivé, hein, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a quelques années. Même là, ça se reproduit, si vous écoutez. Il y a des gens, avaler sa salive, c'est possible. Se brosser les dents, bah oui, c'est l'hygiène. Et la religion musulmane, elle est basée sur l'hygiène, en général. Donc, au contraire, tu te brosses les dents, ça fait plaisir au bon Dieu. D'accord? Bon. Alors, donc, tu te laves les pieds, tu te brosses les dents. C'est comme ça. L'un va pas sans l'autre. Alors, donc, moi, j'ai aimé son passage à Iman. Vous allez écouter parce qu'il va nous le préparer. Là, il est prêt. Hein. Juste après ça, on va l'écouter. Alors, moi, je vais intituler ainsi, les moralisateurs du mois de Ramadan. Juger l'autre, c'est porter un jugement sur soi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le mois de Ramadan, les musulmans prouvent leur fort attachement aux valeurs de piété, de solidarité et de spiritualité. C'est le mois par excellence d'une profonde spiritualité et de recueillement. Il s'agit aussi d'une période par excellence de purification de l'âme. Purification de l'âme, qui incite à adopter les bonnes attitudes et pratiques, illustrant les valeurs de solidarité et d'entraide. Alors... Combien ont compris ces valeurs? Et combien respectent ces recommandations? Certains, ben oui, certains hélas pratiquent plus que les autres mois de l'année, la namima, la médisance, le jugement, la critique, ils jugent la manière de la pratique religieuse des autres, ils épient qui jeûne ou qui ne jeûne pas, qui prie, qui ne prie pas, de la longueur des vêtements des femmes ou leur maquillage pendant le mois de Ramadan. Ah, t'as mis du vernis, ah c'est haram. Ah, t'as mis du rouge à lèvres, ah c'est haram. Ils s'avancent même à prononcer, sinon promettent les sentences qui seront infligées par Dieu dans l'au-delà, passant par les tourments de la tombe, et j'en passe. Les ventriloques du Créateur ou gardiens autoproclamés de la morale, prêts à dégainer à coups de rappel et de sermons, bouillonnant sinon de menaces de foudre divine si vous avez le malheur de ne pas rentrer dans la case de leurs fantasmes sortant tout droit de leur esprit lobotomisé. Oublions au passage les grandes valeurs de l'islam, la tolérance, la solidarité, la fraternité, l'amour et la miséricorde.
Avec avec Imane, ça va être un peu une séquence révoltons-nous. Imane, qui est journaliste et podcasteuse, tu fais ta première chronique dans l'émission. Alors apparemment, t'es pas très contente aujourd'hui.
Oui Manu, je suis un peu en colère aujourd'hui.
Alors dis-moi tout.
Tu connais les moralistes du Ramadan ?
Oh oui.
Le Ramadan, ce mois béni où l'odeur des délices cuisinés avec amour envahit les foyers, où les prières rythment nos journées et où la quête de piété et de purification est au cœur de nos préoccupations. Mais attendez une minute, car quelque chose cloche. Voici venir les moralistes du Ramadan, ceux qui aiment sermonner et donner des leçons de vertu à tout va.
Ouais, je vois très bien de quoi tu veux parler, puis je vois que tout le monde t'observe autour de la table, parce qu'effectivement, on en connaît tous apparemment. C'est comme les lilas, ça refleurit tous les ans au même moment, hein, les moralistes comme ça.
Exactement, c'est une étrange créature le moraliste du Ramadan. Tout au long de l'année, il erre dans les méandres de la vie quotidienne, voguant sur les vagues tumultueuses de ses propres indulgences. Mais une fois que la lune du Ramadan pointe à l'horizon, voilà qu'il se transforme en gardien autoproclamé de la vertu, prêt à juger et à condamner quiconque ose défier, ne serait-ce qu'un peu du chemin de la piété. C'est comme si, avec l'apparition du croissant de lune, leur radar de moralité se mettait soudainement en marche, scannant chaque action et chaque mot à la recherche de la moindre déviation par rapport à leurs normes auto-imposées de sainteté. Ils ne se contentent pas de jeûner et de prier, non. Ils ressentent le besoin pressant de surveiller et de corriger les autres, comme s'ils étaient les arbitres auto-proclamés de la conduite humaine pendant ce mois béni.
Ouais, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein.
Totalement. Et pourtant, je me demande, que pensent-ils accomplir avec leur sermon auto-satisfait ? Est-ce qu'ils croient vraiment que leur diatribe bien intentionnée vont transformer les pécheurs repentis en saints en un claquement de doigts ? Ou est-ce simplement un exercice narcissique visant à satisfaire leur propre ego, à se sentir supérieur aux autres en exhibant leur piété temporaire ? Il est facile de se parer de la robe de la vertu pendant un mois, de se draper dans le manteau de la moralité et de brandir le bâton de la réprimande. Mais la vraie piété, celle qui compte vraiment, c'est celle qui se manifeste tout au long de l'année, dans les actes quotidiens, les paroles bienveillantes et les intentions pures.
Ouais, enfin, comme je dis souvent, en plus, la religion, c'est personnel, hein, qu'on soit juif, catholique, bouddhiste, quelle que soit la religion, ceux qui s'acharnent toujours à vouloir montrer au monde entier combien ils sont de bons croyants, souvent, ils cachent un visage un petit peu moins vertueux. Hein.
On est bien d'accord. Alors, chers moralistes de Ramadan, plutôt que de perdre votre temps à juger les autres, peut-être feriez-vous mieux de vous concentrer sur votre propre cheminement spirituel. Car, après tout, le Ramadan ne consiste pas seulement à se priver de nourriture et de boissons, mais aussi à se purifier de l'arrogance et du jugement pour cultiver la compassion et l'empathie envers nos semblables. En fin de compte, nous sommes tous des voyageurs sur le chemin de la foi, avec nos hauts et nos bas, nos victoires et nos défaites. Alors, au lieu de nous condamner mutuellement, pourquoi ne pas nous tendre la main dans un esprit de fraternité et de compréhension ? C'est là, après tout, l'essence véritable de ce mois de miséricorde et de pardon.
Eh ben, on adhère, Imane, merci beaucoup pour ce petit billet d'humeur. On va faire une petite pause comme ça pendant la pub, on va pouvoir répondre aux protestations. Et puis, on se retrouve juste après avec nos invités.
Voilà, c'était Imane, donc dans l'émission de notre ami Manuel Mariani. Merci Manuel, hein, parce que c'est... Je lui avais demandé de me la télécharger, de me l'envoyer. Il l'a fait. Voilà, il a tenu parole. Donc Manuel Mariani, dans Chacun son tour, tous les jours de 16h à 17h. Et j'ai trouvé le passage d'Imane, mais vraiment tellement frappant de vérité. Et puis voilà, il fallait qu'il soit entendu dans l'émission de Manuel. C'est bien, mais j'avais besoin aussi que vous l'entendiez dans Confidence. Voilà. Oui, on a une pause là, tout de suite, c'est ça ? Alors on a une petite pause, on part pas, moi je vous attends, j'ai envie qu'on développe ce sujet, je vous ai parlé du mois de Ramadan et les juges, hein, les juges, les moralisateurs, hein, elle les appelle les moralistes, et elle a raison, hein, notre amie, hein, d'accord ? Et donc ceux qui jugent les autres, voilà. T'as mangé, t'as pas mangé, qu'est-ce que t'as mangé ? Ah non, tu fais mal, t'as fait ta prière. Ah non, c'est comme si ça sert à rien que tu fasses Ramadan si tu fais pas la prière. Ah, elle s'habille un peu, pas. Non, elle est pas habillée dans les normes. Elle s'est maquillée, bah non, elle jeûne pas. Voilà. Ils regardent au faciès, c'est-à-dire que tout est la vitrine. Et ceux-là regardent la vitrine. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Déjà, eux-mêmes ont peut-être des choses, peut-être à cacher ou des choses qu'ils essayent de camoufler. Donc ils essayent. C'est l'histoire de la paille dans l'œil de son voisin. et la poutre qui est dans le sien. Voilà, tout simplement. 01 53 48 3000. Je vous attends, dépêchez-vous de venir, parce que ce thème, je pense qu'il touche tout le monde. Vous avez tous rencontré des moralisateurs. Moi, j'en rencontre tout le temps. Allez, ils prolifèrent ceux-là. Alors, je veux dire, ils prolifèrent. Il y en a de plus en plus, d'année en année. Je sais pas, mais ils se reproduisent à une allure, mais incroyable. Infernal, hein. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
01 53 48 3000, allez, on vient, on se réveille. C'est un sujet qui touche tout le monde. Alors si on n'est pas là pour briser les tabous, c'est même pas la peine, moi je dis. Hein. Donc les moralisateurs, oui, les moralisateurs, hein, parce que les bons conseillers, comme on dit, les bons conseillers ne sont pas les payeurs. Donc en 2019, un étudiant s'est fait, ça je vous en avais parlé, un étudiant en 2019 s'est fait tabasser et a grièvement été blessé à l'œil le 11 mai 2019 au campus universitaire d'Alger, Bouzeria, pour ne pas avoir respecté le jeûne durant ce mois de Ramadan. Alors cet étudiant qui s'appelle Mohamed T, un étudiant qui est diabétique, ce garçon est diabétique avec un début de cancer du foie. Il s'est isolé derrière une bâtisse pour manger et prendre ses médicaments en toute discrétion. Quand deux individus arrivent et le rouent de coups, sans même lui laisser le temps de s'expliquer. J'irais même dire pourquoi s'expliquer. Qui sont ceux-là? Ils sont envoyés par là-haut? De s'expliquer, Mskin. Transporté à l'hôpital, le médecin, après lui avoir prodigué les soins nécessaires, lui a délivré un certificat médical d'incapacité de travail de 5 jours. Il lui a notamment conseillé de rester chez lui sous surveillance pendant les jours qui viennent. Diabétique et un début de cancer du foie. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est fait tabasser. Tu manges. Une étudiante ayant mangé en plein jour également, peu de temps après, plein jour, du mois de Ramadan, a été agressée à l'intérieur de cette université de Bouzeria sur les hauteurs d'Alger. Et d'après la même vidéo, parce que ça a été filmé, une bagarre a éclaté entre plusieurs étudiants qui sont pour et ceux qui sont contre. Et l'agression de la jeune fille contre, voilà, qui sont pour l'agression, qu'on l'ait agressée. Et il y en a qui étaient contre, donc ils se sont bagarrés. Vous imaginez, il y en avait qui étaient pour, hein. Faut le faire, hein. De la jeune fille et concernant la rupture du jeûne. Alors moi ça m'a fait rappeler un truc. On dit que pendant le mois de Ramadan, Orkela a des smatras quand j'étais jeune. Ils disent que le diable. Alors comment on dit le diable? Je sais que le diable en arabe c'est pas le chétan. Il y a un autre mot, hein. On dit le diable, il est enchaîné. Les diables sont enchaînés. Djounoun. C'est les Djounoun. Voilà, les Djounoun. Voilà, pardon. Les Djounoun sont enchaînés. Pendant le mois de Ramadan, après 40 jours, après ils sont relâchés. Moi, je pense que pendant le mois de Ramadan, c'est les moralisateurs qui sont déchaînés. Alors, on y va. On va reprendre. Karima, je te reprends juste après, mais on prend Fatima. Fatima de Paris, bonsoir.
Bonsoir, Habibti.
Bonsoir, ma chérie. Bienvenue. Ça va et toi?
Merci.
Merci, toi aussi, Saftork. Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je leur dis souvent. Si la piété était à la hauteur du comportement, le karana la Suisse partout, dans les pays musulmans. Si les pays musulmans sont dans la, je ne veux pas dire le mot, c'est parce qu'il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie et la religion, regarde juste ici, c'est devenu un matu vu. Moi, je fais la prière. Moi, je fais ceci. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les imams, là. Les questions posées aux imams dans différentes radios. Tu restes sidéré de n'importe quoi. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui m'a choquée. Je te jure, en tant que musulmane, ça m'a choquée. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille. Il y a certains qui ont commencé à prier depuis l'âge de 14 ans. D'autres, j'avais un oncle, Mrioul, et buvait, il faisait des 400 coups. Et tout le monde s'entendait à merveille. Il n'y avait aucune morale. Dernièrement, j'étais en train de voir une vidéo qui venait de l'Angleterre. Et bon, ils sont très tolérants en Angleterre. Moi, j'ai vu des filles en jilbab, en machin et tout. Bref, ça, non. Quoique, de nos jours, c'est dangereux. Parce que tu sais pas qui est caché dedans.
Non, le visage caché, non. En France, c'est interdit, c'est tant mieux. Voilà. Mais voilà, que quelqu'un porte un foulard et tout, les gens sont libres de porter. Voilà. Ils sont libres de porter. Maintenant, cacher son visage, non.
Même la police là-bas.
C'est pas qui derrière.
Il y a certaines policières qui tirent le foulard.
Oui, le foulard, c'est pas interdit, oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas interdit.
Alors, donc.
Mais te cacher le visage. Donc, j'ai vu une vidéo où il y avait, je crois, comment on appelle le truc, le boulevard là, très square, quelque chose.
Times Square. Réputé.
Voilà. Il y avait une prière générée. C'est-à-dire, c'est toute une rue. Ils sont venus prier dans la rue. Est-ce qu'on voit les juifs prier dans la rue? Est-ce qu'on voit les chrétiens s'agenouiller et prier dans la rue? Non. Il n'y a que les musulmans. Donc, c'est plus devenu une religion de façade. Moi, je comme tu dis, bon, je parle de moi. Au sein de ma famille, des personnes très pieuses et des personnes qui sont, tu vois, le minimum. Eh bien, crois, et on a un athée. Mais sans charme, dire la mise au rouge et tout. Oui. Il n'a jamais fait. Il me dit, je ne trouve pas lui. C'est-à-dire, je ne trouve aucune explication à Ramadan. Je ne sais pas. Eh bien, crois-moi, Vanessa, c'est le plus généreux, c'est le plus serviable, c'est le plus famille par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas le fait de dire. Le problème, c'est que il y a des jeunes. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui sont nés ici, qui ont vécu ici, qui sont français à part entière. Et ils te disent ceci haram et ceci halal. Non, non, c'est pas ça. Celui qui veut pratiquer à fond et qui veut imposer sa religion. L'islam, qui est une très belle religion pour ceux qui la comprennent et qui la suivent. Donc, ils vont vivre en Arabie Saoudite, ils vont vivre dans les pays où il y a la charia. Il y a la charia. Mais imposer à d'autres, mais pourquoi tu te caches pas la tête? Pourquoi tu n'es pas un foulard? Non, Framdan, au moins, dis-le un foulard, mets-le chez un chapeau.
Non mais ça va au-delà de ça parce que les personnes portent ce qu'elles veulent mais elles n'ont pas à venir faire ce qu'ils appellent soi-disant le rappel à d'autres en disant pourquoi etc. Moi j'ai des femmes, des jeunes femmes que je connais qui me racontent, hein, moi je reçois beaucoup de messages, hein, il y en a que je rencontre, qui me disent que là où elles habitent, elles entendent des choses comme ça. Par exemple, on leur dit pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu portes pas tel vêtement? Elles me le disent. Moi je dis non, c'est pas possible. Elle me dit je t'assure, mais viens voir. J'ai dit ah ouais, à ce point ça. Et puis c'est-à-dire que on va, ils sont dans le jugement comme le disait Iman, et d'ailleurs je vais l'inviter parce que j'ai trouvé ça pertinent. Ils sont dans le jugement de tout. Maintenant soyons francs. Qui est parfait à part Dieu? Personne n'est parfait.
Exactement.
Les personnes, alors les moralisateurs, j'ai lu ça quelque part dans un bouquin, j'ai lu tellement de bouquins, j'ai plus la référence en tête, qui parlait justement des personnes qui font la morale aux autres. Ben il faut se méfier de ces gens-là en général, parce que ces personnes-là, eh bien en faisant la morale aux autres, elles se persuadent qu'elles sont sur le droit chemin, qu'elles font les choses bien, parce que alors qu'il n'en est rien. Mais en fait, c'est pour mieux cacher ce qu'elles veulent cacher en venant, clamer, prodiguer des paroles moralisatrices, etc. Faut toujours se méfier de ces gens-là. Mais de ceux qui sont dans la morale, trop de morale tue la morale. Voilà. Quand tu vois quelqu'un, un proche ou quelqu'un qui se drogue, bien sûr, tu lui dis que la drogue c'est pas bon. Bien entendu, tu dis c'est pas bon, tu te détruis. Voilà, quelqu'un de ta famille qui fume des cigarettes, tu dis je te le dis pour toi, mais tu sais que c'est pas bon pour la santé. Tu oses le dire. L'alcool, quelqu'un de ta famille, tu oses lui dire.
Quelque chose de néfaste.
Voilà, pour ta santé. Mais quelqu'un il pratique pas, oui. Voilà, Ramadan, il a envie de manger, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Quelqu'un qui ne prie pas, pourquoi tu vas lui dire « Oh, de toute façon, tu fais ramadan, mais ça sert à rien. » Moi, je l'ai entendu, hein. Je l'ai entendu même à l'antenne, des gens. Ah, ouais, il y a des gens qui disent « Ah, non, mais si tu fais le somme ramadan, tu fais ramadan, tu jeûnes, et tu ne fais pas la prière, ça sert à rien. Pourquoi t'es Dieu, toi? T'es lié avec lui directement, il t'a parlé, il t'a envoyé. Montre-moi un SMS.
Non, mais...
C'est quoi ces histoires?
Une Torah ou quelque chose comme ça qui dit que...
Mais c'est quoi leur truc? Même, j'irai même plus loin. Tu vois, moi, je vais au-delà. Hein. Même, c'est écrit, des choses écrites, etc. Même ça, ils te disent, à la fin, à chaque fois, ils disent, il y a ça écrit, mais Allahu alam. Ça, c'est les connaisseurs. Moi, Samir, qui m'est appelé d'Alger, moi, j'aimerais bien qu'il rappelle, qui est formidable. Il disait toujours, même des choses qui sont écrites déjà, et tout, Mektoubine, tu vois, eh bien, malgré ça, il est écrit aussi, Allahu alam. Malgré que c'est écrit, Allahu alam. Parce qu'après, après, c'est Dieu qui décide, tout simplement. Exactement. Non, Romain, ils ont décidé, ils t'ont sanctionné, ils t'ont condamné. Sommé Ramadan, tu dis, je ne fais pas la prière, ils te disent, ah ben ça ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien? Ça sert à rien. Tu comprends? Déjà, le fait de dire ça, déjà, c'est-à-dire, avec Nia. Donc, Nia, c'est pas bon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est à partir de là que les gens deviennent. C'est là qu'ils sont dans une forme d'ignorance. Le Juhela, c'est ça. Alors, donc, pour un oui, pour un non, l'Achor Kefer, l'Achor Hekda, c'est fou.
Ah oui.
J'ai pas envie, Mansalish.